Alléluia. Est-ce que vous voulez lever et dire ceci avec moi? Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je peux tout ce qu'elle déclare. Je suis prêt à recevoir l'incorruptible, l'indestructible semence de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je veux parler de ce que j'ai marqué comme notre troisième point pour notre vision pour cette année, qui est aider chacun à prendre sa place d'influence dans la société, les voir prospérer autant dans leur santé que matériellement par la parole et l'esprit. Donc à ce moment, nous sommes en train de partir dans une direction particulière pour l'Église, n'est-ce pas, d'établir à nouveau qui nous sommes en Christ et notre autorité au nom de Jésus. Amen. Mais il y a toujours quelque chose en moi, une fondation que Dieu nous a donnée pour cette Église qui est la guérison divine et la volonté de Dieu et la prospérité matérielle et la volonté de Dieu. Amen. Et j'étais en train de préparer à aller dans une direction et c'est comme si le Seigneur m'a barricadé la route et il dit « Prêche sur la prospérité ». Est-ce que ça vous va? Amen. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de prospérer un peu plus? Amen. Donc, je sais que certains ont peur qu'on parle de l'argent, mais normalement, les gens qui ne veulent pas qu'on parle de l'argent dans l'Église passent toute la semaine en train de parler. Et je pense que c'est mieux qu'on parle un peu ici, oui, et qu'on ne s'inquiète pas, on ne fait pas des soucis de l'argent pour le reste de la semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous prospériez. Donc, si vous avez votre Bible, tournez avec moi en Deutéronome, chapitre 8, et nous en lire ensemble ce qu'est la volonté de Dieu pour son peuple. Amen. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous. Toutes les promesses de Dieu. Il n'y a pas certains enfants qui sont préférés à d'autres. Cette idée que Dieu a des élus, oui, est archi faux. Ça ne fait pas partie de l'évangile. Dieu aime tous ses enfants et je suis enfant de Dieu parce que j'ai invité Jésus dans mon cœur. Amen. Il m'a pardonné de mes péchés. Il a lavé mon cœur et je lui appartiens et il m'appartient. Amen. On va voir les choses ce matin et j'espère que vous êtes prêts parce que le Seigneur m'a dit qu'il faut que je vous transmette quelque chose ce matin. Il m'a dit qu'il y aura des murs qui vont tomber, il y aura des percées dans certains murs. Moi, je crois que quelque chose va changer dans votre niveau de prospérité aujourd'hui. Qui est prêt? Parce que moi, je suis prêt depuis 2 semaines maintenant de prêcher ce message et je vous dis combien c'est difficile quelquefois de me retenir, hein? Hallelujah. Donc, Deutéronome, vous y êtes, chapitre 8, on va commencer verset 7. Il dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Tout le monde dit bon pays. Pays où coulent ou de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, des oliviers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Il y a abondance. Où tu ne manqueras de rien. Paye donc les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailles les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ça, c'est la mise en garde de la prospérité. Je veux le répéter, d'accord? Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand les choses vont pas très bien, vous savez, la plupart des gens tombent vers Dieu. Mais malheureusement, nous avons tendance que quand les choses commencent à aller bien, que nous oublions notre Dieu. Et j'ai vu ça. Ça fait 26 ans que je prêche cet évangile ici en France. J'ai vu des gens qui sont arrivés dans cette église avec toutes sortes d'ennuis matériels, qu'ils ont vu que c'était la volonté de Dieu qui prospère les gens qui ne pouvaient pas payer leurs charges, ne pouvaient pas s'en sortir. Chaque fin du mois, ils avaient besoin d'aide, même qu'ils faisaient recours à leurs parents et qu'ils ont vu la prospérité, la bénédiction de Dieu. Et je connais, entre autres, un couple qui a acheté un bateau et au lieu de venir à l'église dimanche matin, ils sont partis sur le bateau chaque dimanche. Et je dis, ils n'ont rien compris. Il n'y a aucun problème si vous voulez un bateau. Mais dimanche matin, on doit être dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Amen. Pas 4 sur 3, 4 sur 4, mais régulièrement. Vous êtes d'accord? Amen. Hallelujah. Il continue. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras, qu'est-ce qu'il dit votre Bible, mesdames? Des belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde dans ton cœur de ne s'enfuir et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc j'ai mis 6 petits points, et je pense que c'est bon quand tu lis la parole de Dieu, de s'arrêter et revenir là-dessus. Il dit, 1, tu mangeras du pain avec abondance. 2, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Il n'y a pas un si, il dit lorsque, ça veut dire quelque chose qui va se passer. 3, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Et certains d'entre vous, vous avez cru un mensonge que ce n'est pas bon pour toi d'avoir un bel appartement. Que ce n'est pas pour toi d'avoir une belle maison. La Bible dit, c'est la volonté de Dieu pour vous. Quelqu'un dit, Alléluia. Amen. Et nous ne commençons pas là, on va terminer. Amen. La plupart de nous, nous avons commencé dans une tout petit appartement, mais on était ravis. Amen. Parce qu'on a commencé, on s'est lancé. On est sorti souvent dans la maison de nos parents, qui était grand et tout, et on est entré dans l'appartement, il n'y avait rien. C'était comme ça pour vous? C'était comme ça pour nous? Et maintenant, on voit la bénédiction de Dieu qui vient progressivement, et, hallelujah, les gens viennent chez nous et disent, oh, c'est bien chez vous. Ça n'a pas commencé comme ça. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, il dit, 5, s'augmenter ton argent et ton or. 6, s'accroître tout ce qui est à toi. On a déjà parlé ce matin de la délivrance du peuple d'Égypte et leur entrée dans la terre promise. Vous savez, c'est une image de notre nouvelle naissance. Nous sortons du royaume des ténèbres, nous ne sommes plus sur l'emprise du diable et nous sortons de là et nous entrons dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Le psaume 105, verset 37 dit, ils sont sortis avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancellera parmi ses tribus. Pas mal, n'est-ce pas? Regardez le proverbe 24 et verset 4. On a parlé des belles maisons. C'est bon d'avoir une belle maison. Regarde ce que la parole dit. Il dit, le proverbe 24:4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça vous dit? Vous aimez les promesses de Dieu? Parce que certains d'entre vous devraient être en disant, oui Seigneur, je crois ça. Amen. Les chambres se remplissent de tout bien, de tous des biens précieux et agréables. Mais malheureusement, certains disent, et j'ai entendu ça maintes reprises, les gens cherchent une excuse pour ne pas entrer dans la promesse de Dieu, pour ne pas voir ce que Dieu nous a promis. Et j'ai entendu certains même dire que cette prospérité fait seulement partie de l'Ancien Testament. Et que dans le Nouveau Testament, comme s'il n'y en avait pas besoin. Cette même personne va vous dire que les miracles se sont arrêtés avec le dernier apôtre. Parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit, c'est celui qui fait les miracles, pas les apôtres. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on fait des choses. Mais, moi je dis toujours, il faut avoir une réponse à cela. Parce que c'est les sortes de pensées qui nous bloquent ici dans notre tête, n'est-ce pas? Si je pense que c'était seulement pour Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Salomon... Et pas pour moi. Ça va m'empêcher d'y entrer. Vous êtes d'accord? Donc vous comprenez la différence entre vouloir vivre bien avec Dieu que vouloir des biens. Parce qu'on vit dans une société où les gens veulent des biens. Et ils pensent d'avoir plus et plus et plus va leur combler. Que ce soit clair, net et précis pour chacun de nous, le trou dans notre cœur ne se remplira jamais avec des choses. Ça se remplit avec Dieu. Amen. Mais une fois que c'est rempli avec Dieu, Dieu désire que nous ayons des choses. Et il n'est pas contre des choses. Il est contre la convoitise. Il est contre la jalousie. Amen. Mais il n'est pas contre la foi qui dit, Dieu l'a promis, je le crois, je le reçois. Amen. Est-ce que c'est seulement de l'Ancien Testament? Moi, je dis... Pourquoi Dieu enleverait des bénédictions en nous faisant entrer dans une nouvelle alliance. Dominique l'a cité, je vais le lire. Hébreux 8, 6. Et voici un verset que vous avez besoin d'apprendre par cœur. Vous avez besoin de renouveler vos pensées avec ce verset. Vous avez besoin de le dire à vous-même. Il faut le méditer, le tourner, tourner dans votre bouche, tourner dans votre tête, jusqu'à ce que vous dites, je le crois. Il dit, mais maintenant, il, parlant de Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Hébreux fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous pouvez lire tous les 13 chapitres d'Hébreux et vous allez entendre tous genre, cette comparaison. Et ici, au milieu, il dit, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur établi sur des meilleures promesses. Ça veut dire qu'il n'a enlevé aucune des promesses de l'Ancien Testament. Il a ajouté d'autres. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Mais il faut travailler cela. Et moi, je dis, il faut travailler ici dans votre tête, parce que si vous le comprenez ou pas, votre tête fait obstacle à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et tant que nous ne pouvons pas imaginer, nous n'allons pas le croire. Et tant que nous ne pouvons pas le croire, nous n'allons pas le dire. Et tant que vous ne le dites pas, vous ne l'aurez jamais. Il a obtenu pour nous une meilleure alliance établie sur des meilleures promesses. Regardons, est-ce que dans le Nouveau Testament, nous trouvons des promesses sur la prospérité? 3 Jean 2. Jean, c'était celui qui a penché sur la poitrine de Jésus, qui était, on peut dire, le plus proche, le plus intime avec Jésus. C'est lui qui a survécu tous les autres. Et il dit, 3 Jean 2, bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait prospérer et que tu sois en bonne santé? Comme prospère l'état de ton âme. Oh, j'ai pas bien cité? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qui peut me dire comment on fait prospérer leur âme? Oui? Dans la parole de Dieu? Par la prière, par la louange. Comment est-ce qu'on fait prospérer notre âme? Par l'adoration, oui. Quoi d'autre? Oui. Témoigner aux autres. Amen. Ça veut dire qu'on donne place aux choses spirituelles. Amen. Je veux la prospérité matérielle, je vais donner place aux choses spirituelles d'abord. Mais il dit, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards. Donc, moi, je retourne toujours voir Jésus. Si jamais j'ai un doute, si on me dit ceci, on me dit cela, moi, je vais dans les évangiles. Je dis, mais qu'est-ce que Jésus dit? Amen? Vous trouvez pas c'est bon? C'est lui quand même le Seigneur. Donc, on peut apprécier Paul, on peut apprécier Pierre, oui, on peut apprécier Jacques, on peut lire les Hébreux. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 10, 10. J'ai entendu un homme de Dieu dire ceci une fois. Il dit, il faut qu'on interprète toute la Bible à travers Jean 10, 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On sait ce que le diable veut faire, mais il n'a pas de place dans ma vie. Et vous? Vous l'avez donné? Il faut lui dire dehors, il faut fermer la porte, ouais. La barricader, comme disent les Canadiens, ouais. Fermer la clé. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie même en abondance. Hallelujah. Je veux que vous entendez ça, pas seulement dans vos oreilles et dans votre tête ce matin, mais vous l'entendez ici dans votre cœur. Dieu te va, il te veut dans l'abondance. Et quelqu'un t'a dit, mais tu ne comprends pas d'où je viens. Tu ne comprends pas de quelle famille je suis issu. Tu savais, tant que vous restez dans votre passé, vous bloquez votre futur. C'est à vous de décider et vous pouvez décider aujourd'hui, peu importe qui j'étais, peu importe d'où je viens, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je décide de marcher dans ce que Dieu a prévu pour moi. Sinon, vous jouez avec le diable. Oui, mais ma famille n'a jamais... Vous savez, j'ai changé de famille. Hallelujah. Ah, heureusement, toute ma famille est entrée dans le royaume de Dieu aussi. Mais nous avons changé de famille. Ouais. Pourquoi? Parce que dans notre famille, on avait plein de problèmes. Ma mère a vécu la guerre, elle a eu besoin d'échapper au Gestapo. Ils ont tout perdu. Ouais. Elle était séparée de sa famille et elle n'avait plus rien quand elle est arrivée en Angleterre. Ouais. Moi, j'étais élevé dans une famille, vous les jeunes, vous ne comprenez pas. Mais j'avais un paire de chaussures et un paire de baskets. Ouais. Et quand un s'usait, on le renouvelait si on avait l'argent. C'était jamais, oh, j'aime plus, donc je le porte plus. Ouais. J'avais un tout petit garde-robe, c'était aussi grand que ça. J'avais tous mes vêtements dedans, toute ma vie. Partir en vacances, c'était facile à quatre, parce que quatre enfants, on mettait tous les vêtements de tous les quatre dans une valise. Moi, j'ai grandi comme ça. On ne manquait pas de nourriture, mais on ne sortait pas au restaurant. Mes parents sortaient une fois par an au restaurant. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, vous, les jeunes. Ouais, parce qu'on vit une autre époque aujourd'hui. Mais combien on était heureux! Amen! Et on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mais on a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que beaucoup de gens pensent prospérité, moi, moi et moi. Si vous commencez à penser prospérité, les autres, comment bénir les autres, votre prospérité ne s'arrêtera jamais d'accroître. Ça va jamais être limité, mais la plupart de nous, notre prospérité a touché le plafond et s'est arrêtée là parce que nous avons pensé mes besoins à moi, ma femme, mes deux enfants, et ça finit là. Non, il y a un monde à toucher. Deutéronome, on va retourner là, chapitre 28 et verset 12. Ok, ma santé. J'ai beaucoup de choses dans mon cœur ce matin. Hallelujah. En Deutéronome 28, nous parlons de pour ceux qui obéissent Dieu et qui sont sous la bénédiction et ceux qui désobéissent Dieu et sont sous la malédiction. Moi, j'ai décidé sur quel camp je suis. Amen. Je ne vais pas lire tout le commencement, je vais dire seulement un verset ici. Deutéronome 28, 12 dit, « L'Éternel tout verra son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir, quoi? Tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prendras point. » Amen. Je vous parlais un petit peu de travail pour l'instant. Est-ce que ça va? On m'a dit que si jamais je vais en Corse, il ne faut jamais prêcher sur le travail. Il faut prêcher sur le repos, les loisirs. Proverbe 12, verset 27. Je ne sais pas si vous lisez les proverbes, mais il y a certains qui me sautent chaque fois que je lis, et je lis tous les jours un chapitre des proverbes. Proverbe 12, 27 dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier. » Gibier tartare. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? L'activité. Nous avons besoin de faire attention de la paresse. Regardez avec moi en Proverbe 24. Certains pensent que vivre par la foi, ça veut dire vivre sans travailler. Mais je dis ça l'autre semaine, oui. Si nous vivons par la foi, ça veut dire qu'on va travailler peut-être deux fois plus. Amen. Écoutez les proverbes. Donc 24, versets 30 à 34. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces ont couvré la face et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instructant de ce que j'ai vu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Critiquer les autres ne vous apprendra absolument rien. Normalement, ceux qui critiquent les autres tombent dans le même piège. Au moins, j'ai remarqué ceci. Si vous critiquez vos parents, vous allez vous trouver à leur place d'ici 20 ou 25 ans. Mais on peut apprendre des erreurs autant qu'on peut apprendre des réussites des autres. Amen. C'est tout dans notre attitude. Il dit, j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur de la 17 comme un homme en âme. Amen. Regardez dans le Nouveau Testament. Je suis toujours concerné quand je vois quelque chose dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est pareil dans le Nouveau Testament? 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 12. Mais nous vous exhortons, frères, et abondons toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, évidemment, c'était quelque chose que Paul disait partout. Oui, en sorte que vous vous conduisez honnêtement. Tout le monde dit honnêtement. On croit souvent qu'on n'a pas assez de talent. J'ai pas assez de capacité. Vous savez ce que les gens, les employés et employeurs cherchent plus que le talent et la capacité? Ils cherchent l'honnêteté, intégrité. Amen. La capacité, on peut ajouter, n'est-ce pas? On peut tous apprendre. Si vous avez fait quelques années d'école? Donc vous avez appris comment apprendre, n'est-ce pas? On peut apprendre les choses. Parce que je ne peux pas faire ça la première fois, ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre. Moi, j'ai des gens qui viennent vers moi, j'ai un nouveau travail et je n'arrive pas. Je dis, vous avez fait combien de jours? 2 jours. Je dis, mais c'est super. Parce que vous imaginez, si vous pouvez le faire dans le deuxième jour, combien vous allez vous ennuyer après 2 semaines? Moi, j'ai fait des petits travaux entre les grandes vacances quand j'étais à la faculté. Et vous savez, chaque fois, après 2-3 jours, je dis, fais ça pour sa vie, je vais m'ennuyer. Et ils venaient toujours me proposer un emploi. John, est-ce que vous voulez rester ici, quitter l'école, et vous pouvez faire ça? Je dis, non, merci. Pourquoi? Parce que j'apprenais le premier, deuxième jour. Et je dis, je vais m'ennuyer ici. Moi, je veux quelque chose qui est difficile. Amen. Vous avez peur de ce qui est difficile? Quelqu'un qui va vous tirer un petit peu? Oui? Ah oui, il faut utiliser la foi. Il faut utiliser la foi de se lever le matin quand même, n'est-ce pas? De sortir du lit, il faut la foi. Amen. Mais je veux quelque chose qui m'exige à prendre quelque chose et aller de l'avant, parce que c'est ça qui va être intéressant d'ici 3, 6, 10, 20 ans. Amen. Où est-ce que je suis? Oui. Travaille honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Peut-être ça c'est quelque chose que tu peux pas imaginer aujourd'hui, de pas avoir besoin de quelqu'un. Mais c'est ce que Paul est en train de dire, c'est que nous devons pouvoir vivre nous-mêmes sans papa, sans maman, sans l'aide sociale. Allô? Là, je touche peut-être une corde un peu, hein? Mais Dieu ne veut pas que nous prenons de la société, il veut qu'on donne de la société. Et il y a des gens qui disent, oh, mais je paye des taxes, gloire à Dieu, ça veut dire que vous travaillez. Amen. Oui, mais je paye beaucoup de charges sociales. Gloire à Dieu, vous êtes en train d'aider quelqu'un. Amen. On peut critiquer le système ou on peut dire, je veux payer plus. Qui veut payer plus de taxes? Quelqu'un a compris. Les autres n'ont pas compris. Moi, je veux payer plus de taxes. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que je gagne plus. Je veux bénir la France. La France me bénit. Je vois toutes ces images. Vous voyez les images dans les autres pays? Et je dis, oh, je suis content que Dieu m'a appelé en France. Amen. Mais ça coûte. Avoir la lumière dans la rue, avoir les rues propres, ça coûte. Question. Vous êtes prêts? C'est pas que je vais vous piéger ici. Pourquoi travailler? Pourquoi? Pour aider les autres. Qui croit qu'on devait travailler pour aider les autres? Qui croit qu'on devait travailler pour payer les factures? Qui croit qu'on doit travailler pour pouvoir aux besoins de sa famille? Non. Je pense que c'est là où on se bloque, tu vois, parce qu'on croit que nous sommes responsables pour ce que Dieu veut pouvoir. Reste avec moi, d'accord? Ne me perdez pas pour l'instant, parce que sinon, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu les nourrit. Amen. Oui. Nous avons besoin de comprendre que nous devons vivre par la foi et non pas par le travail. Je vous donnerai un verset dans l'instant que je pense qu'il va vous aider. Mais écoutez d'abord, Philippiens 4, 19, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Amen. Le psaume 23, 1, Vous connaissez le psaume 23, n'est-ce pas? Et ça commence, l'Éternel est mon berger, quoi? Je ne manquerai de rien. S'il est le berger, s'il suit le berger, le berger va l'emmener dans les verts pâturages près des eaux paisibles. Si le brebis dit, je fais ce qui m'enchante, je fais ce que je veux, oui, il est en danger. Mais si on suit le berger, Jésus est le berger, oui, mais John, tu es le berger de cette église. Oui, je suis le berger de cette église, mais je suis un sous-berger en réalité, parce que je vous pointe tout le temps vers le grand berger. Amen. Je dis, comme l'apôtre Paul, vous pouvez suivre mon exemple, oui, et les choses vont aller bien dans votre vie. Mais il faut que vous connaissiez mon Dieu. Oui, parce que certains veulent avoir un intermédiaire entre eux et Dieu. Non, je ne suis pas un intermédiaire, Laurent n'est pas un intermédiaire, l'équipe pastorale n'est pas vos intermédiaires, les dirigeants de groupe maison ne sont pas vos intermédiaires. Nous sommes là pour dire, voilà comment le faire. Mais il faut que vous connaissiez Jésus et le Père. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc ça va être difficile pour certains de vous parce que vous avez toujours pensé qu'il faut travailler pour payer les factures. Il faut travailler pour pourvoir aux besoins de la famille. Vous savez, il faut que nous faisons cela par la foi. Comment? Comment agit la foi? Quelqu'un peut dire? La foi se trouve dans deux endroits, n'est-ce pas, pour que ce soit efficace. Où? Dans le cœur et dans la bouche. Amen. On met la parole dans notre cœur. Mais ça, la parole doit être dans le cœur et dans la bouche, et ça c'est la foi qui part. Et vous avez besoin de commencer à dire, tous mes factures sont payées. Vous avez besoin de dire, j'ai toujours plus que ce qui m'est nécessaire. Mais commence avec tous les factures sont payées. Donc il se peut que vous avez besoin de faire comme nous avons fait. Ça veut dire serrer la ceinture. Parce que si vous êtes en train de dépenser des choses pour n'importe quelle raison, moi je dis, c'est pas bon. Amen. Ah oui, mais les autres ont une nouvelle télé, les autres ont une nouvelle voiture. Moi, j'ai vu les gens faire ça. Ne suis pas les autres, suis le Seigneur. Vive votre vie à votre rythme, d'accord? Amen? Mais commence à dire, tous mes besoins sont pourvus par le Seigneur. Ah, je sais que c'est radicalement différent pour certains d'entre vous. Parce que vous allez dire, mais donc j'ai plus besoin de travailler. Non, nous venons de lire, c'est pourquoi j'ai lu avant, que le paresseux, oui, ne rôtit pas son gibier. Oui, mais l'activité précieuse de l'homme, c'est le travail. Amen. Vous m'entendez? Donc, on va dire, pourquoi donc travailler? Déjà, si on peut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, je déclare que tous mes besoins sont pourvus. Je déclare que toutes les factures sont payées. Oui, je fais attention des factures. Oui, quelquefois, ça nous est arrivé où le Saint-Esprit nous a dit, arrêtez d'acheter des choses superflues. Ouais. Et souvent, tout de suite après, on a passé par un moment difficile. Et parce que j'ai écouté, nous avons écouté, on a passé sans problème. Moi, j'ai vu les autres qui achètent n'importe quoi, n'importe comment, et ont des difficultés. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il faut surtout commencer de vivre par la foi en ce qui concerne vos finances. OK, donc pourquoi travailler? Merci pour avoir reposé la question. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. C'est un renouvellement des pensées qu'on a besoin là, n'est-ce pas? Parce que certains, depuis 30 ans, on a travaillé pour payer les factures. Maintenant, commence à déclarer, tout est payé. Amen? Vous allez pouvoir aller au travail léger. Est-ce que vous allez travailler moins? Non, je pense par la foi, vous allez travailler mieux. Ouais? On enlève le stress. Ouais? Et on fait mieux. Amen? Nous devons être les meilleurs ouvriers. Peu importe dans quel domaine vous êtes, vous devez être le meilleur, que les gens sont toujours en train de dire. Vous pointez le doigt, dit, si tout le monde était comme elle, tout le monde était comme lui. Oh, je vais avoir une centaine comme vous. Nous étions en train, donc j'ai commencé dans un restaurant quand nous étions à l'école biblique aux États-Unis, et ils avaient une loi dans le restauration là, c'est que les mariés ne pouvaient pas travailler ensemble, parce que vous savez, si jamais, qui a travaillé dans la restauration? Ça peut être assez stressant, n'est-ce pas? Oui. Donc, il ne veut pas qu'ils brisent les mariages. Ils n'ont jamais, on laisse les couples travailler ensemble. Donc, nous avons enfreint cette loi. Nous avons prié. parce qu'on était séparés pendant les cours. On ne pouvait pas parler en cours. On était souvent assis un dans une partie de la salle, l'autre dans l'autre partie. Et on dit, on veut travailler ensemble parce que on était jeunes mariés à l'époque. On avait quoi, 2 ans de mariage? Cette année, on va fêter nos 30 ans de mariage. C'est super. Et on a déclaré qu'on pouvait travailler ensemble et ils ont embauché Laura. Ouais. Et après, la patronne de 6 restaurants dans la ville a dit, moi, je veux que tu travailles dans tous mes restaurants. On a travaillé dans 5 de ces 6 restaurants. Chaque fois qu'on allait dans un restaurant, on dit, ce restaurant va prospérer. Et finalement, ils nous ont donné le pire des restaurants, ouais, qui avait le chiffre le plus bas, qui ne s'en sortait pas. Et nous avons commencé de déclarer, ce restaurant va s'en sortir. On a dit, Seigneur, donne-nous des idées. C'était une mauvaise location, c'était difficile et tout ça. Et nous sommes arrivés à 2e. On n'a jamais battu le premier, ils étaient 2 fois plus grands. Ouais. Mais on était le 2e. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré. Ouais, que quand, évidemment, on a pris soin des clients, on a fait toutes ces choses. Amen. Il faut que nous apprenions à utiliser notre foi et qu'on soit le meilleur. Même j'appelle qu'elle a dit, je veux que vous travaillez dans tous mes restaurants. C'est ce qu'il devait dire de vous. Amen. Pourquoi travailler? Éphésiens 4, 28, vous l'avez trouvé? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, tout le monde dit travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi payer ses factures. C'est pas marqué, n'est-ce pas? Non, nous avons besoin de notre foi pour avoir de payer les factures. Nous avons besoin de travailler pour avoir plus que cela, pour pouvoir donner à chaque bonne œuvre. Amen? Pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Amen? Si vous pouvez saisir ce verset, comprendre, Dieu ne veut pas que vous arriviez juste à la fin du mois. Il veut que vous arriviez à la fin du mois avec largesse. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'on peut dire, oh, il nous reste l'argent, où est-ce qu'on peut s'aimer? Amen. Et peut-être c'est d'acheter un cadeau pour quelqu'un, tu dis, qui avait besoin de quelque chose. Peut-être c'est de payer quelque chose pour quelqu'un. Peut-être c'est pour envoyer vers des gens. Ça vous regarde, vous et Dieu. Amen. Hallelujah. Pourquoi travailler? J'espère que ça vous a remué un petit peu. J'ai demandé à Laura de partager avec nous. Vous savez, Laura enseigne à Réma. Donc, elle a enseigné ici pendant qu'on avait une école ici. 8 ans, on avait une école biblique ici. On a eu Réma 4 ans maintenant à Genève. Première année ici à Nice. Et elle enseigne sur la prospérité. Elle dit, Laura, quels sont les 3 points les plus importants que vous enseignez? Parce qu'elle fait 12 heures sur la prospérité. Vous voulez les entendre? Viens, Laura. Elle va vous les donner. Prête note cela. C'est important parce que pour elle, c'est les 3 choses les plus importantes de 12 heures de cours.
Amen. La première chose, c'est le seul domaine dans la parole de Dieu où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Regardons cela en Malachie 3, verset 8. C'est de donner le dîme. D'accord. Malachie 3, verset 8. Si tu commences à verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes, c'est le premier 10% de votre revenu. Les offrandes, c'est ce que vous donnez après. Vous n'êtes pas en train de donner une offrande si vous n'avez pas donné votre dîme. Verset 9. Et vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et beaucoup de gens disent, Seigneur, ouvre les vents du ciel au-dessus de ma tête. Je veux la bénédiction, mais il veut pas donner. Il ne veut pas donner leur dîme. Il dit, ah, oh, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Non, c'était avant, comme nous avons vu ce matin avec Dominique. C'est le dîme a commencé avec Abraham. Et nous avons besoin d'être obéissants à Dieu. Souvent, les gens, ils veulent le don de puissance et tout ça, et nous allons regarder ça. Mais c'est ma première chose, c'est Dieu dit, mettez-moi à la sorte de l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les vins du ciel. Et vous avez besoin d'attendre ces bénédictions. Parce que c'est bon de donner, mais c'est encore mieux de récolter. Parce que vous savez, quand vous avez un champ, et par exemple, vous mettez un grain de maïs, dans la terre. Ça va pousser énormément sur cette maïs. Vous allez avoir 244 morceaux de maïs qui vont être sur chaque épi. Énormément, vous avez 2 à 3 épis par tige. N'est-ce pas? Et c'est normal. Et on dit, mais c'est normal pour un fermier de semer en attendant une récolte. Mais vous, mes amis, quand vous semez, attendez une récolte dans votre vie. Attendez que vous avez des soldes de promotion, que Dieu fait vous promulguer dans votre société, que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Deuxième chose, Dieu veut montrer la différence entre le juste et les injustes. Et nous sommes justes en Jésus-Christ. Et vous êtes la justice de Dieu. Dieu trouve que vous êtes ses chouchous, ses bien-aimés. Et il veut vous bénir en abondance. Parce que nous avons un monde à gagner. Et si on ne touche pas ce monde, pourquoi Dieu nous aurait-il laissé ici-bas? Sinon, il nous aurait emmenés tout de suite au ciel. Mais il nous donne le privilège, la responsabilité d'apporter cette bonne nouvelle par tout le monde. Mais pour aller par tout le monde, ça coûte de l'argent, mes amis. Ça coûte la disponibilité de votre emploi de temps pour payer votre loyer quand vous êtes en déplacement. Mais il y a des gens qui vont ont besoin de vous entendre parler de Dieu. Et si vous ne leur parlez pas, si vous ne le priez pas pour eux, comment est-ce qu'ils vont entendre? Il y a des gens qui ont besoin de vos paroles, pas les miennes. Parce que vous êtes choux aux yeux de Dieu. Vous avez un destin, vous avez une capacité remarquable de porter cette bonne nouvelle. Et si vous regardez en Proverbe 10, verset 22, Proverbe 10, verset 22, la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin, mes amis. C'est ces bénédictions qui veulent vous enrichir. Et si on retourne encore à Malachie 3, 18, c'est juste avant Matthieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Mes amis, vous servez Dieu. Dieu veut faire de vous un exemple pour le monde. Il veut que les gens voient votre joie, votre paix, votre bénédiction prospère, que vous êtes toujours en haut et jamais en bas, que vous êtes béni quand vous êtes en ville, quand vous êtes béni quand vous quittez la ville, que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Et il veut bénir le travail de vos mains. Alors laissons Dieu bénir le travail de vos mains. Quand les gens veulent vous donner davantage, dites merci et recevez ça. Quelquefois, les gens nous proposent ça et on dit, oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. Souvent ici en France, les gens vous proposent quelque chose, j'ai vu ça, c'est dans votre culture, il faut proposer 3 fois et après la 3e fois, les gens peuvent dire merci. C'est ça, c'est dans vos mères. C'est, aux États-Unis, on a pris à dire merci tout de suite. C'est un peu plus comme les petits-enfants, quand tu demandes à un petit-enfant, est-ce que tu veux un biscuit? Oui, mais quand ils ont cette neige, ils disent, oui avec les yeux et non avec leur bouche. Parce qu'ils veulent être polis. Mes amis, soyez reconnaissants à votre Dieu. Soyez polis et acceptez ce que votre Père Céleste veut vous offrir sur le premier coup. N'est-ce pas? Troisième chose. Et si nous sommes fidèles avec des petites choses comme l'argent, Dieu veut nous donner les meilleures choses. Si nous voulons les dons spirituels, Dieu, il faut qu'on soit fidèle avec l'argent. Parce que quand vous avez des dons spirituels en train d'opérer dans votre vie, quand vous avez des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de guérison en train de s'opérer, les gens vont vous essayer de vous payer pour cela. Et nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes des chrétiennes. On a reçu ça gratuitement, on donne ça gratuitement. N'est-ce pas? Alors, on ne veut pas rentrer dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit fidèle avec les dîmes et les offrandes. Ça nous garde nos cœurs. Si on peut avoir confiance de vivre sur 90% bien, Dieu va assurer que notre 90% va augmenter. Amen. Et nous trouvons ça en Luc 16, versets 10 à 11. Parce que franchement, l'argent, mes amis, c'est le moins de choses. C'est nécessaire pour vivre et pour vivre bien, pour assumer nos factures. Il faut qu'on soit de bons citoyens, qu'on paye nos impôts et on réjouit pendant qu'on le fait. Et merci Seigneur qu'on a davantage. Amen. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Si vous n'avez pas été fidèle dans la richesse injuste, qui vous confiera de véritable? Mes amis, la Bible dit cherchez. Aspirer aux dons spirituels. Nous avons besoin de ces dons spirituels si nous allons toucher le monde, si nous allons voir les gens délivrés de la puissance du diable, les gens qui sont enchaînés, qui ont des cauchemars, qui ont des visitations pendant la nuit, les gens qui sont hantés pendant les, avec les mauvais esprits, avec les souvenirs, qui sont affreux. Dieu peut le libérer. Ce ne dit pas qu'il fait un lavage de cerveau, mais toute la douleur puisse partir, tout le chagrin, tout le chien de cet esclavage. Amen.
Merci Laura. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez reçu? C'est vraiment important. Je sais encore, certaines personnes pensent qu'on reçoit les dîmes et les offrandes dimanche matin parce qu'on a besoin de payer les factures. Mais vous savez, nous payons nos factures comme vous devez payer vos factures, par la foi. Nous déclarons que l'argent est là. Amen. Et vous savez, quand Laura et moi, nous sommes arrivés ici en France, donc déjà de partir de l'Angleterre, les gens ont dit que c'était impossible, on n'avait pas de soutien, mais on a dit on doit obéir à ce que Dieu nous a appelé faire. On a commencé de parler. Quand nous sommes arrivés ici à Nice, on était dans certains quartiers, on a dit est-ce qu'il y a des appartements par ici? Il a dit mais jamais vous trouvez un appartement ici. Et si jamais il y en a un libre, jamais vous pouvez le payer. Et vous savez, dans mon cœur, quelque chose s'est tourné. Je ne sais pas comment vous êtes, mais quand les gens me disent que c'est quelque chose d'impossible, moi je dis, Dieu, on va voir, n'est-ce pas? Et je dis, c'est là où on va vivre. Et c'est là où on vit. Pas seulement qu'on a pu louer un appartement là et payer chaque mois notre appartement, maintenant nous achetons un appartement là. Amen. Là où les gens qui disent, on ne trouvera pas, et si on trouvait, serait impossible de l'avoir. Quand je suis allé voir le banquier, vous voyez, quand je dis, je m'intéresse à acheter un appartement, il m'a ri au nez. Il dit, votre salaire, jamais vous pouvez acheter un appartement ici à Nice. Qu'est-ce que vous faites quand les gens vous font cela? Moi, je dis, j'ai la foi, j'ai la parole dans mon cœur, j'ai la parole dans ma bouche. Les autres disent, c'est impossible. Moi, je dis, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, quand nous recevons les dîmes et les offrandes, ce n'est pas pour prendre quelque chose de vous. C'est vous donner l'occasion de participer dans l'œuvre de Dieu et pour que Dieu puisse multiplier cette semence. Amen. Je voulais vous lever, je veux prier pour vous. Hallelujah. Merci Seigneur.